La voix de la crime. Un podcast pour mieux comprendre la jurisprudence de la chambre criminelle. Avec la participation d'Ida Chaffaille et Olivier Violo, conseiller référendaire, et de Guillaume Fradin, directeur du service de communication de la Cour de cassation.
Peut-être venez-vous à l'instant de déverrouiller votre téléphone rien qu'en fixant du regard votre écran pour écouter ce nouvel épisode de La Voix de la Crime. Si c'est le cas, vous avez eu recours à la reconnaissance faciale, une technologie dont l'usage s'est largement répandu et sur laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à se pencher dans un tout autre cas d'usage. Il se trouve que la reconnaissance faciale est un outil qui peut être intégré au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Or, le 9 octobre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que des enquêteurs pouvaient exploiter ce dispositif informatique sans y être autorisés au préalable par un magistrat. Olivier, pouvez-vous nous en dire plus sur l'affaire qui a conduit la chambre criminelle à prendre cette décision ?
À l'origine de cette procédure, une jeune femme a déposé plainte pour viol contre un homme qu'elle avait rencontré la veille dans un hôtel après avoir convenu de ce rendez-vous sur un site de rencontre en ligne. Elle a remis aux enquêteurs une photographie de son agresseur qu'il lui avait précédemment adressée à l'occasion de leurs échanges sur les réseaux sociaux. Les gendarmes ont comparé cette photo avec les photographies d'identité contenues dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires en utilisant le module de reconnaissance faciale qu'il contient. Cette comparaison a été fructueuse puisqu'elle a permis d'identifier la personne mise en cause par la plaignante. Le suspect a donc pu être interpellé et, après ouverture d'une information judiciaire, a été mis en examen par un juge d'instruction pour viol.
Ce fichier de traitement d'antécédents judiciaires est en pratique appelé le TAJ. Retenez ce nom, parce que c'est ainsi que nous l'appellerons pour la suite de ce podcast.
Justement, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement ce TAJ ?
Pour identifier les auteurs d'infractions, les enquêteurs exploitent différents fichiers de police à leur disposition. Vous avez sûrement entendu parler, par exemple, du fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED, du fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, ou encore du fichier des personnes recherchées, le FPR. Ces fichiers sont alimentés par les services de police et de gendarmerie et s'analysent en droit comme des systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel. Pour en venir aux TAJ, y sont enregistrées des informations d'identité relatives aux auteurs de crimes, de délits et des contraventions les plus graves. Y figurent également des informations concernant les victimes et, plus généralement, des éléments sur les faits eux-mêmes, la date et le lieu de l'infraction, le mode opératoire, etc. L'article R40-26 du Code de procédure pénale dresse la liste de l'ensemble des éléments qui peuvent être collectés. Il prévoit notamment que des photographies peuvent être intégrées au TAJ, qu'il s'agisse de photographies en général, mais également de photographies d'identité des personnes suspectées. Pour pouvoir exploiter efficacement ces photographies en procédant à des rapprochements, le TAJ a été doté d'un module de reconnaissance faciale. Dans notre affaire, l'identification de la personne mise en cause pour viol a été faite grâce à une photographie de l'intéressé, qui avait été prise 3 ans auparavant à l'occasion d'une procédure ouverte contre lui pour des faits de conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer son permis de conduire et de prise du nom d'un tiers, pour lesquels il a, depuis lors, été condamné.
On comprend assez bien comment le fait de disposer d'une vaste base de données comme le TAJ, le traitement d'antécédents judiciaires, peut aider à résoudre des enquêtes. Mais admettons que je sois soupçonné d'avoir commis une infraction pour laquelle je serais finalement relaxé. Je n'ai pas forcément envie que mes données personnelles qui auront été prélevées lors de mon audition soient conservées définitivement dans ce fichier à disposition des forces de sécurité intérieure.
Et vous avez raison, ce ne devrait pas être le cas. Il existe des règles qui limitent la conservation de ces données dans le temps, dans le détail desquelles nous n'allons pas entrer ici. Mais vous attirez l'attention sur une question importante. celle des garanties qui doivent entourer les modalités d'enregistrement, de conservation et d'effacement des données, mais également l'utilisation de ces données. Tout l'enjeu de la constitution et de l'utilisation de ces fichiers consiste à trouver un équilibre entre l'efficacité des enquêtes et la protection des données personnelles. De manière générale, le législateur a encadré le recours aux fichiers d'antécédents aux articles 230-6 et suivants du Code de procédure pénale, mais ce sont des dispositions réglementaires prévues aux articles R40, 24 et suivants du même code, qui ont défini plus précisément le contenu du TAJ, la durée de conservation des données et les conditions dans lesquelles elles peuvent être consultées. Surtout, ces fichiers sont placés sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui doit, en principe, se charger de la mise à jour des informations qu'ils contiennent, effacement, rectification, etc. Toutes les personnes concernées disposent d'ailleurs d'un droit d'accès et de rectification sur ces données et peuvent même former un recours contre la décision de refus qui leur serait opposée.
La loi prévoit-elle qu'un enquêteur doit être autorisé par le procureur de la République ou par un juge à consulter le TAJ, le traitement d'antécédents judiciaires, et à exploiter les éléments qu'il contient?
Non. Aucun texte ne prévoit qu'un magistrat doive autoriser les enquêteurs à utiliser le TAJ. Et c'était précisément la critique que soulevait, dans notre affaire, la personne mise en examen. Elle a en effet demandé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente d'annuler les actes par lesquels les enquêteurs avaient effectué des recherches dans le TAJ, en utilisant l'outil de reconnaissance faciale. Parce que, selon elle, cette technique d'enquête est attentatoire à la vie privée, dépourvue de base légale, et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un contrôle effectif et préalable d'un magistrat. La personne mise en examen prétendait que ce dispositif méconnaissait les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée. Sa critique reposait sur un parallèle avec d'autres techniques d'enquête, très attentatoires à la vie privée, pour lesquelles la loi exige que l'enquêteur soit autorisé par un magistrat. Par exemple, si l'enquêteur veut mettre en œuvre un dispositif de localisation en temps réel, c'est prévu par l'article 230-33 du Code de procédure pénale, ou encore un dispositif de captation d'images, qui est alors prévu à l'article 706-95-12 du même code.
Mais ni la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente, ni la chambre criminelle, qui a été saisie d'un pourvoi de la personne mise en examen, n'ont suivi ce raisonnement. Au contraire, elles ont jugé que les enquêteurs peuvent utiliser l'outil de reconnaissance faciale intégré au TAJ sans y avoir été autorisé par un magistrat pour les nécessités de leurs investigations. La chambre criminelle a énoncé qu'un tel usage n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit au respect de la vie privée.
Pourtant, la reconnaissance faciale est une technologie très intrusive qui n'est pas sans poser question du point de vue de la vie privée. Après tout, la Cour de cassation aurait pu exiger que son utilisation soit subordonnée à l'autorisation d'un magistrat.
Attention, dans l'arrêt du 9 octobre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pris position que sur l'utilisation du module de reconnaissance faciale intégré au TAJ. Cet outil présente une particularité sur laquelle il me semble indispensable d'insister. Il ne s'agit en effet pas, comme dans d'autres techniques spéciales d'enquête, telles que la captation d'images ou la sonorisation d'un lieu, d'autoriser l'acquisition de données personnelles à l'insu de la personne concernée, ce qui constitue une atteinte directe à la vie privée de l'intéressé. Le recours au module de reconnaissance faciale intégré au TAJ permet seulement d'accéder à des données personnelles dont la collecte a déjà eu lieu pour les comparer efficacement à celle d'un suspect dans une procédure en cours. Cet acte n'est pas fondamentalement différent de l'opération par laquelle un enquêteur ou un technicien procède à une comparaison entre une empreinte digitale ou génétique retrouvée sur une scène de crime et celle figurant dans le FAED ou le FNAEG dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est parce que l'ingérence dans la vie privée qui résulte du recours à l'outil de reconnaissance faciale intégré au TAJ est limitée qu'elle ne nécessite pas une autorisation préalable du magistrat.
Vous nous avez dit que dans cette affaire, l'argumentation développée par la personne mise en examen était fondée sur le fait que le dispositif français aurait été contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La chambre criminelle ne l'a pas entendu ainsi. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'autorise une ingérence dans le droit à la vie privée par les autorités publiques que si elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. La Cour européenne des droits de l'homme veille à ce que les fichiers de police respectent strictement ces exigences. Elle a déjà considéré par le passé que le droit français en la matière n'était pas conforme à la Convention. Ainsi, elle a jugé, par un arrêt du 18 avril 2013, que le FAED était un système trop attentatoire aux libertés des personnes concernées, qui pouvaient y être fichées pour des infractions mineures et sans bénéficier de réelles possibilités d'effacement, y compris en cas de relax ou d'acquittement. Elle a également conclu, dans un arrêt du 22 juin 2017, que le FNAEG ne respectait pas l'article 8, en raison de l'impossibilité effective d'effacement des données et de la très longue durée de leur conservation, de manière indiscriminée, quelle que soit la gravité des infractions poursuivies. Notez que les textes ont évolué depuis lors pour accroître les garanties en conséquence. Dans notre affaire, la chambre criminelle a vérifié si l'utilisation du module de reconnaissance faciale du TAJ respectait ses exigences. Et elle a alors constaté, premièrement, que le recours à cet outil qui constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée est prévu par la loi, comme nous l'avons vu. Deuxièmement, que le recours à cet outil est justifié par l'objectif légitime de poursuite des auteurs d'infractions. Troisièmement, que cette ingérence est proportionnée au but recherché, et ce, notamment, pour deux raisons. La première raison tient au fait que les données personnelles des personnes soupçonnées ou condamnées pour des infractions mineures sont exclues du fichier dont dépend l'outil utilisé pour la reconnaissance faciale, tout comme les données des personnes relaxées ou acquittées. La seconde raison porte sur le fait que le juge peut être saisi par voie de requête en nullité pour vérifier que seuls des agents spécialement habilités à cette fin ont accédé à ce fichier.
Cette habilitation est d'autant plus importante que les enquêteurs habilités à consulter le TAJ sont par voie de conséquence habilités à utiliser l'outil de reconnaissance faciale qui constitue une composante de ce fichier. La réalité de cette habilitation doit être contrôlée par le juge lorsqu'il est saisi d'un tel moyen de nullité. La chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de donner toute sa portée à ce contrôle, puisqu'elle a jugé que s'il ne peut être établi que la personne qui a accédé à un fichier de police n'était pas habilitée pour y procéder, la consultation, puis l'exploitation des données qui en résultent, doit être automatiquement annulée sans que la personne qui demande la nullité soit tenue de démontrer un grief. Il appartient donc au juge, au besoin par un supplément d'information, de rechercher si l'agent qui a procédé à une telle consultation disposait ou non de cette habilitation, comme le rappelle avec constance la Cour de cassation, par exemple dans un arrêt du 23 mai 2023. C'est la fin de ce podcast. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver toutes les références des décisions citées sur le site de la Cour de cassation, rubrique kiosque.
Merci également à l'équipe d'Amicus Radio pour leur soutien technique et leur précieuse assistance.
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain podcast de la Chambre criminelle. N'hésitez pas à faire part de vos demandes d'explications de jurisprudence en nous adressant un courriel à lavoisdelacrime.courdecassation@justice.fr. À bientôt.